Bonsoir et bienvenue dans cette émission clôturière à Goma du mini-sommet des chefs d'État des Grands Lacs. Une rencontre qui s'est tenue par visioconférence. Les chefs d'État de la RDC, de l'Angola, du Rwanda et de l'Ouganda ont pris part à cette rencontre. Dans les communiqués finaux qui a sanctionné les travaux, les chefs d'État ont réaffirmé leur volonté de conjuguer les efforts afin d'éradiquer les forces négatives et les groupes armés opérant dans la sous-région, freiner l'exploitation illicite des ressources naturelles et lutter contre la Covid-19. Les ministres des Affaires étrangères des quatre pays participants sont chargés de définir les modalités pratiques de la mise en œuvre de ces résolutions. Quelle analyse faire des conclusions de ces mini-sommets? Et pensez-vous que les résolutions de ces mini-sommets seront effectivement appliquées? C'est à ces questions que nous allons tenter de répondre au cours de cette émission. Et nous recevons donc dans cette émission Maître Juvenal Munumbu Mubi. Il est député national élu de Walikale au Nord Kivu. Il est cadre de l'UNC, parti membre de la coalition au pouvoir. Il est aussi rapporté de la commission Défense et Sécurité à l'Assemblée nationale. Bonsoir Maître Juvenal Munumbu Mubi.
Bonsoir Monsieur Guy, bonsoir à tous les auditeurs.
Gratien Dessé Nicolas Irachan est député national élu de Bouniaville dans la province de l'Ituri. Il est cadre du regroupement politique MS et de la plateforme Ensemble pour le changement dans la coalition Lamouka. Bonsoir Gratien Dessé Nicolas Irachan.
Bonsoir Monsieur le journaliste, bonsoir à tous les auditeurs de la radio Okapi.
Et professeur Chobert Agenonga, il est professeur à l'université de Kisangani. Il est spécialiste dans les domaines des études de sécurité, de sociologie militaire et de géopolitique. Bonsoir professeur Chobert Agenonga.
Bonsoir Monsieur le journaliste, bonsoir à tous les auditeurs de la radio Okapi.
Bienvenue une fois de plus à tous dans cette émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiokapi.net.
Nous le disions au début de cette émission, les chefs d'État de la sous-région des Grands Lacs réaffirment leur volonté de conjuguer les efforts afin d'éradiquer les forces négatives et les groupes armés opérant dans la sous-région. La lutte contre l'exploitation illicite des ressources naturelles et contre le Covid-19 figurait également au menu du mini-sommet qu'ils ont tenu hier par visioconférence. Outre Félix Tshisekedi, les présidents João Lourenço d'Angola, Yoweri Museveni de l'Ouganda et Paul Kagame du Rwanda ont participé à ces mini-sommets. Des ministres des Affaires étrangères des quatre pays participants sont chargés de déterminer les modalités pratiques de la mise en œuvre des résolutions de ces sommets. On écoute un extrait du communiqué final lu par la ministre des Affaires étrangères de la RDC, Marine Tumba Nzenza, dans une sélection de Billy Ivan Lutumba.
Les chefs d'État de quatre pays ont réaffirmé leur volonté de conjuguer leurs efforts visant à éradiquer les forces négatives et les groupes armés opérant dans la région des Grands Lacs. Ils ont condamné l'activisme des forces négatives dans la sous-région des Grands Lacs et ont réaffirmé leur volonté de militer pour le renforcement des capacités des mécanismes existants dans la sous-région des Grands Lacs afin de couper les forces négatives des sources de financement de leurs activités et de lutter conjointement contre les réseaux mafieux, tant régionaux qu'internationaux, qui contribuent à l'exploitation et au commerce illicite des ressources naturelles dans la sous-région des Grands Lacs. Les chefs d'État ont convenu de mettre sur pied un plan transfrontalier pour renforcer les mesures de surveillance et de contrôle de riposte à la Covid-19 et des autres pathologies à potentiel épidémique entre les quatre pays, tout en respectant les législations nationales, régionales et internationales irrelatives.
Maître Juvenal Munumbu Mubi, je rappelle que vous êtes député national élu de Walikale Nord Kivu, vous êtes cadre de l'UNC, parti membre de la coalition au pouvoir, et vous êtes aussi rapporteur de la commission Défense et Sécurité à l'Assemblée nationale. Après plusieurs rendez-vous manqués, ce sommet s'est finalement tenu hier par visioconférence, et plusieurs conclusions sont issues de ces assises, notamment la volonté exprimée par les quatre présidents de vouloir éradiquer les forces négatives et les groupes armés opérant dans la sous-région, et plus particulièrement en RDC. Et quelle analyse vous faites de ces options levées par ces quatre chefs d'État?
Je salue tout d'abord les amis avec qui j'interviens dans cette émission, les collègues Irachan et les profs Adenonga. Je vous salue aussi et je salue tous les auditeurs. C'est une bonne chose, ces sommets, ces mini-sommets des Grands Lacs. Une seule inquiétude, c'est que le Burundi n'a pas été dans les échanges, parce qu'on aimerait bien que le président burundais aussi y participe, parce que les conflits au Congo, les conflits au site Kivu, l'insécurité au site Kivu, on voit bien qu'il y a les tensions entre Kigali et Bujumbura qui ont aussi une incidence dans les sites Kivu. Bien évidemment, au site Kivu, il y a beaucoup de groupes armés dans les hauts plateaux, la plaine, c'est pratiquement chaque ethnie qui a un groupe armé. Mais il y a une dimension régionale aussi. Il y a des groupes armés d'origine soit rwandaise ou d'origine burundaise. Et tout ça, ça contribue à l'insécurité. Donc ça aurait été mieux que le Burundi participe dans ces échanges également. Donc c'est une bonne chose. Et s'il faut reculer un peu, il y a des dispositifs, hein, des instruments juridiques qui ont été signés par les États concernés. Il y a le pacte de Nairobi de décembre 2006. Il y a l'accord cadre d'Addis Abeba qui prévoit un certain nombre d'engagements, des engagements du Congo, c'est-à-dire de la RDC, les engagements de la région et les engagements au niveau de la communauté internationale. Mais la paix n'arrive toujours pas, c'est ça les problèmes. Et pourtant, sans la paix, c'est difficile de parvenir à l'intégration régionale, parce que le but de toutes ces organisations, c'est qu'on arrive à une réelle intégration sous-régionale ou régionale africaine. Qu'ils aient reconnu que ça vaut la peine de couper les sources de financement des groupes armés, c'est une bonne chose, parce que les armes, on ne les fabrique pas ici au Congo. En tout cas, je ne connais pas une fabrication d'armes, soit à l'Est ou au Congo, ou à l'Est de l'Afrique même. Tout ça, ça nous vient de l'extérieur. Alors, il faut savoir qui finance les groupes armés. J'ai été avec les collègues Irachan, on a fait la caravane de la paix avec le ministre de la Défense et 8 collègues députés. Nous avons été de Bunia jusqu'à Muliro, dans le sud, hein, à la frontière avec la Zambie, et ça nous a permis d'entrer vraiment au contact avec les réalités sur terrain, comment les forces armées se battent, et là où il faut renforcer, il apparaît qu'il faut effectivement plus de moyens pour les éléments des forces armées de la RDC, et il y a donc des faiblesses qu'il faut corriger, mais il faut quand même rester fier du travail qui est en train d'être réalisé.
Oui, Maître Juvenal Munubu Mubi, que répondez-vous à ceux qui pensent qu'affirmer vouloir combattre l'activisme des groupes armés dans cette région serait un simple vœu pieux, et à partir du moment où ces groupes armés seraient utilisés par certains de ces États pour justement maintenir la mainmise sur les richesses de la RDC?
Oui, alors, je crois il a raison, hein, en bonne partie. C'est pourquoi il faut engager les États de la région. Hein. Une rencontre qui n'associe pas tout le monde, il y a quand même des inachevés dans ça. Hein. On sent vraiment qu'il y a quelque chose qui n'est pas achevé. Donc l'idéal aurait été d'engager tout le monde. Ceux qui ont signé l'accord cadre d'Addis Abeba, en fait, ils étaient au nombre de 11. Non, il y a les mécanismes 11 plus 4. Les 4, c'est en réalité les témoins, on peut le dire comme ça, l'Union africaine, la CIRG, la SADC. Eh bien, on devrait engager tout le monde.
Et donc, vous pensez qu'on ne devait pas s'arrêter à la sous-région de Grand Lac, qu'on devait associer tous les pays limitrophes de la RDC?
Exact. Donc, il faut rentrer dans l'idée même de pacte de Nairobi et de l'accord cadre d'Addis Abeba. Il faut engager plus d'acteurs. Parce que ce que nous connaissons, ça concerne beaucoup d'acteurs. Voilà que pour les mini-sommets, les Burundi, à moins que je ne sois pas bien informé, mais il me semble que le Burundi n'a pas été de la partie. Il faut engager tout le monde, hein. Il faut engager tout le monde et que tout le monde se sente responsable. Parce que la crise au Congo, il y a une dimension interne, évidemment, hein. Il y a des efforts qui doivent être fournis par les Congos. Et nous, parlementaires, nous essayons de pousser le gouvernement à mieux faire son travail, à penser aux conditions de vie et de travail des militaires, notamment. Mais il y a une dimension régionale, quoi. Il y a une dimension régionale et même internationale. Raison pour laquelle il faut engager tous ceux-là qui peuvent avoir de l'influence. Tous ceux-là qui peuvent apporter une pierre à la pacification du Congo.
Voilà, vous avez rappelé le fait que vous avez fait partie d'une délégation composée des membres du gouvernement et des parlementaires qui ont sillonné la partie est du pays afin de s'enquérir de la situation du terrain. Et lorsque vous entendez ces 4 chefs d'État parler, vous pensez qu'ils ont les mêmes termes de référence avec les populations qui vivent au quotidien les atrocités, les affres, n'est-ce pas, de cette insécurité récurrente dans l'est de la RDC?
Oh, je crois qu'ils comprennent quand même qu'il y a un besoin criant, hein, de paix. Hein, quand ils disent que nous réaffirmons notre volonté d'éradiquer les groupes armés, quand ils disent que nous devons couper les sources de financement des groupes armés, eh bien, on sent quand même qu'il y a une certaine intention, une bonne intention sans doute. Mais sauf que les bonnes intentions ne suffisent pas. on va voir, hein, parce que les ministres des Affaires étrangères respectifs vont fixer les modalités pratiques pour l'exécution de résolutions. On veut bien quelque chose de pratique. Il y a ce qu'on appelle le mécanisme conjoint de vérification de frontières. Normalement, on ne devrait plus assister à des incursions, hein, le long de la frontière, parce que ces mécanismes existent. Mais je dois vous dire qu'il y a des troupes étrangères qui ont fait leur entrée en territoire congolais. On a connu beaucoup d'agressions ces derniers mois. Donc ça ne marche pas, hein, ces mécanismes conjoints de vérification de frontières.
Justement, c'est pourquoi ils ont pris la résolution de renforcer ces mécanismes existants.
Encore une fois, on ne sait pas, le renforcement se fera comment. Oui, il y a la question de comment ça va se faire. Bon, j'ai hâte de savoir tout cela, comment tout cela va prendre forme. Il y a par exemple le centre commun de fusion des renseignements. Je pense qu'on est tous d'accord que on n'acceptera pas des forces spéciales ici. Hein. Ça a été dit et redit. Donc les troupes étrangères n'entreront plus ici. Mais au moins, au niveau du centre de fusion des renseignements, il faut que les États se partagent les renseignements. Parce qu'il y a lieu de se partager vraiment les renseignements. Qu'est-ce qui renforce les ADF? Et vous verrez que tous ces groupes sont situés le long de la frontière. C'est le long de la frontière qu'il y a de l'insécurité. Et c'est le long de la frontière qu'il y a des minerais. Vous voyez, donc, dans toutes ces zones frontalières. À ces niveaux-là, on cherche vraiment du concret. Alors, attendons voir comment tout cela va prendre forme.
Merci, Gratien de Saint-Nicolas Irachan, député national élu de Bougnaville, dans la province de l'Ituri. Vous êtes cadre du regroupement politique MS de la plateforme Ensemble pour le changement dans la coalition Lamouka. Les quatre chefs d'État réaffirment leur volonté de conjuguer leurs efforts visant à éradiquer les forces négatives et les groupes armés opérant dans la sous-région des Grands Lacs. Comment vous réagissez à cette résolution?
Bon, je commence par saluer les collègues Mouloumbo qui est avec nous sur le plateau, mais aussi le professeur Chaubert. Je voudrais tout simplement affirmer que ce sommet, c'est vraiment un échec. C'est un échec total et ça ridiculise la République démocratique du Congo. Vous avez vu, il y a plusieurs fois, on a reporté ce sommet-là et finalement, le président va aller faire ce sommet, mais par vidéoconférence. Donc, ça veut dire qu'il pouvait faire même cette conférence à partir de Kinshasa. Pourquoi un échec? Tout simplement parce que quand vous voyez un peu la façon dont l'Ouganda, les Rwanda, les Burundi et même l'Angola ont traité la RDC, vous trouverez qu'il y a eu un peu de légèreté même dans la préparation de ces sommets-là. Vous avez vu avec nous que le ministre d'État des Affaires étrangères de la RDC a été même envoyé pour rencontrer les présidents burundais pour insister qu'il participe, mais ça n'a pas eu vraiment un bon résultat. Donc le vrai problème est ailleurs par rapport à ce que nous sommes en train de suivre aujourd'hui. Parce que quand vous voyez aujourd'hui la RDC est au centre même de ces conflits-là. Donc il faut qu'on voit un peu à l'intérieur de la RDC qu'est-ce qui ne marche pas. Parce que vous voyez, le président Félix, il a une bonne volonté. Il faut le féliciter pour ça. Parce qu'il voudrait, à travers ce sommet, que je trouve une occasion de parler, de discuter, de pouvoir se comprendre face à ces problèmes qui est en train de ronger l'est de la RDC. Mais il faut aussi reconnaître que la RDC est très mal placée pour organiser un tel sommet.
Pourquoi? Comme je le dis, parce que le centre, pourquoi la RDC serait mal placée pour organiser ces sommets? Pourquoi?
Parce que le centre de conflit, c'est l'est de la RDC. Donc, c'est la RDC qui est concernée. Je vous donne un exemple précis. L'Ouganda est en train de poursuivre les rebelles ougandais en RDC. Les Rwandais sont en train de poursuivre les rebelles rwandais en RDC. Et les Burundais poursuivent les rebelles en RDC. Ça veut dire que c'est la RDC le problème. Et on ne doit pas se voiler la face pour dire tout simplement qu'il y a beaucoup de préalables que la RDC devrait résoudre au niveau interne. Et je l'ai dit toujours, on a toujours dit d'une façon vulgaire qu'il veut la paix, prépare la guerre. Aujourd'hui, nous sommes face à un pays, à notre pays, qui ne sait pas vraiment se positionner pour pouvoir être au centre des conflits et de pouvoir affronter même ces conflits-là. Et quand vous voyez les problèmes que nous connaissons, ce sont des problèmes qui devraient se résoudre d'une façon interne, mais qui n'ont jamais trouvé de résolution. Moi, je donne par exemple les difficultés que nous avons avec notre armée, par exemple, qui nécessitent une bonne prise en charge, des bons équipements, mais aussi des bonnes infrastructures, mais malheureusement qui ne se font pas. Comment voulez-vous, par exemple, à l'est de la RDC, qu'on puisse combattre les groupes armés quand il n'y a pas de route? On ne peut pas comprendre. Quand je prends la province du Haut-Uele avec les Mororo, vous voyez l'Ituri avec Codeco et consorts, avec tous les autres groupes qui sont là. Vous voyez le Nord Kivu avec les ADF. Vous voyez le Sud Kivu avec tous ces groupes qui pullulent, les Mai Mai et consorts. Et jusqu'au niveau du Sud avec la Zambie qui entre au Congo. On n'a pas de route.
Et quand vous n'avez pas de route, ça veut dire que l'armée a du mal à pouvoir se déployer. Ou alors il faut faire un pont aérien. Mais nous n'avons pas des hélicos qui peuvent transporter les troupes, qui peuvent surveiller la zone. Donc, oui.
Et donc, pour vous, il y a des préalables qui doivent être accomplis d'abord à l'interne, avant de penser associer les pays étrangers. Mais vous ne pensez pas que les deux démarches peuvent être menées au même moment, pendant qu'on est en train d'assainir chez soi, on associe aussi, n'est-ce pas, les pays étrangers, pour voir comment, ensemble, on peut mettre en place une sorte de synergie pour venir à bout de ces forces négatives, n'est-ce pas, qui insécurisent pas seulement l'est du pays, mais qui pourraient aussi, à un moment donné, déstabiliser les pays limitrophes de la RDC.
On ne peut pas exclure la diplomatie. Parce que moi, dans toutes mes recommandations, je dis toujours que la RDC doit intensifier la diplomatie avec les pays limitrophes. C'est comme ça, je suis en train de féliciter l'initiative du président Félix Tshisekedi. Mais bien sûr, même si ce n'est pas vraiment attendu, mais il faut renforcer cette diplomatie, mais tout à regardant au niveau interne. Et quand je dis au niveau interne, on a un problème de gouvernance sécuritaire. Ça, on ne doit pas tâcher. Parce que normalement, on doit avoir une armée qui est forte au niveau de l'Est, que ce soit les FARDC, que ce soit la police, et avec des conditions favorables pour le travail. Et quand je vois ces conditions favorables, je vois les salaires, je vois l'équipement, je vois l'infrastructure. On doit renforcer l'administration locale, qui, malheureusement, pose aussi problème. Et on sait qu'on a un problème de salaire, des équipements, des infrastructures au niveau de l'administration locale. On doit renforcer la justice. Nous savons que notre justice a des petits problèmes. Et ça ne fonctionne pas comme il faut. Donc, tant que la gouvernance sécuritaire pose problème au Congo, en tout cas, nous n'allons pas pouvoir nous en sortir. Et s'il faut résumer tout ce que je suis en train de dire, nous avons un problème de la bonne gouvernance, d'abord en interne. Vous savez comment nous avons traversé la période où, par exemple, dans notre institution Assemblée nationale, au lieu de toucher l'essentiel des problèmes de la population, on est en train plutôt de travailler sur des positionnements liés à des intérêts politiques. Au lieu de travailler sur ce qui convient au niveau de la présidence, vous voyez, par exemple, les gens, la coalition, en train de se combattre en interne pour les positionnements politiques en rapport avec les élections et consorts. Donc, la gouvernance congolaise ne donne pas l'importance pour la situation sociale ou la sécurité même de la population, de la frontière, mais s'acharne plutôt à faire des revendications de positionnements politiques internes et ça fait qu'il y a maintenant un laisser-aller pour la vraie gouvernance sécuritaire. Donc, pour moi, il faut aller vers la diplomatie, mais tout en renforçant d'abord la gouvernance sécuritaire interne de notre pays.
Oui, Irachan, autre aspect, c'est que entre ces différents pays, il y a des contentieux qui ne sont pas encore vidés. On se rappelle que l'Angola a annexé depuis 2009 11 villages de la RDC à Kaemba. Et on sait qu'il existe jusqu'à aujourd'hui des conflits frontaliers entre la RDC et ces pays limitrophes, notamment les Rwanda et l'Ouganda. Et vous pensez que la démarche rationnelle aurait été de commencer par vider ces contentieux avant d'envisager un tel sommet?
Oui, ça c'est aussi une chose importante, parce que vous savez, les contentieux que nous sommes en train de connaître, ça remonte. Je prends la situation de la Zambie qui est entrée dans la RDC. Cette situation remonte vers 1890 et on n'a jamais trouvé de solution pourquoi. Et quand vous trouvez par exemple la frontière avec l'Ouganda, et c'est toujours les contentieux et ça remonte à des années. La frontière avec le Rwanda, ça remonte à des années. La frontière avec le Burundi, ça remonte. Même chose avec l'Angola et j'ajoute qu'il y a même un conflit avec le Congo-Brazza, mais aussi avec la République centrafricaine. Donc il faut prendre les problèmes dans sa globalité et c'est là où je dis toujours et je suis en train toujours de marteler, ça nécessite une responsabilité du leadership congolais. Donc si l'Assemblée nationale pouvait travailler sur les fonds des dossiers, si la présidence de la République pouvait travailler sur les fonds du dossier, on allait trouver des issues favorables. Mais malheureusement, comme je l'ai dit encore, on laisse l'essentiel pour pouvoir aller vers l'accessoire. Comment vous allez maîtriser les groupes armés quand il n'y a pas de route? Comment vous allez maîtriser les groupes armés quand vous ne savez pas vous occuper convenablement de votre armée? Comment vous allez maîtriser les groupes armés quand vous ne savez pas surveiller la frontière?
Merci.
Donc il se pose un problème global au niveau de la gestion interne de la République.
Merci, professeur Chaubert Guedonga. Professeur à l'université de Kisangani, vous êtes spécialiste dans les domaines des études de sécurité, de sociologie militaire et de géopolitique. Votre analyse par rapport aux résolutions issues de ces mini-sommets?
D'entrée de jeu, je tiens à saluer les co-débatteurs qui participent à cette émission. Les résolutions issues du mini-sommet de chef de l'État de la région appelle les commentaires ci-après. Alors, premièrement, il faudrait clairement dire que ces résolutions sont gravement entachées de faiblesses pour deux raisons. À telle enseigne que ces résolutions paraissent moins comme un engagement multilatéral qu'un simple vœu. La première raison, c'est que ces résolutions s'attaquent plus aux conséquences, je le souligne, et non pas aux causes de l'activisme des groupes armés. La seconde raison est que l'approche qui a dicté ces résolutions est minimaliste dans la mesure où elle se focalise beaucoup plus sur une solution militaire, n'est-ce pas, aux menaces sécuritaires en RDC, alors que la sécurité est multidimensionnelle, on ne le dira pas assez. Puis, égard à ce qui précède, eh bien, je tiens à souligner le fait que aujourd'hui, si on veut réfléchir sur le mécanisme susceptible d'entraîner l'éradication des groupes armés en RDC, eh bien, on doit réfléchir sur deux niveaux de causes. Le premier niveau, ce sont des causes endogènes, et le deuxième niveau, les causes exogènes. Alors, c'est quoi les causes endogènes? Ici, je vais insister sur le fait que sur la dégénérescence, c'est-à-dire la déliquescence de l'État congolais, qui est à la base du vide sécuritaire et même administratif, qui profite au mouvement subversif. Et ça, l'État congolais ne va pas le demander aux États limitrophes. Les déficits de moyens mis à la disposition de nos forces qui sont censées faire face au mouvement sécuritaire, ça, on ne va pas non plus le demander aux États limitrophes. La conséquence est que lors de la 75e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies, le chef de l'État, qui a donné l'impression du fait qu'il n'avait pas confiance à son armée, et se tourne vers les Nations Unies pour leur demander de renforcer la brigade d'intervention de la MONUSCO. Mais on doit aussi orienter la réflexion vers le chômage de masse. Tous ces jeunes-là, qui font partie des groupes armés, ce sont des jeunes qui ne bénéficient pas d'un encadrement efficace. Donc c'est à cause du chômage de masse, mais aussi l'indiscipline de certains militaires congolais. Ça, on ne le dira pas assez. Le rapport des Nations Unies pointe du doigt, n'est-ce pas, certains militaires congolais comme étant à la base du transfert des armes légères vers les groupes armés. Mais aussi, enfin, il faut voir un peu le climat des affaires en République démocratique du Congo. Ça, je voudrais y revenir dans le deuxième niveau consacré aux causes exogènes. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo se tourne vers ses prédateurs. Ça, je ne comprends pas. Tout le rapport des Nations Unies montre que ces groupes armés-là sont aussi entretenus par les États desquels la RDC s'attend paradoxalement à une solution. Et revenons même sur la question du trafic illicite des armes légères et de petit calibre en RDC. Ça, on ne le dira pas assez. Le rapport des experts des Nations Unies démontre même que le Rwanda, le Burundi, l'Ouganda sont devenus la plaque tournante du trafic illicite de ces minéraux.
Professeur Guinoga, professeur.
Oui, je vous écoute.
Oui, si on vous a bien compris, vous prenez, n'est-ce pas, qu'il y ait des efforts à l'interne. D'abord, commencez par améliorer la gouvernance interne avant d'envisager un sommet de ce genre. Mais vous savez que pour améliorer cette gouvernance, c'est un long processus. Hein. Entre-temps, on sait qu'il y a des gens qui sont en train de se faire tuer tous les jours. Pourquoi ne pas mener les démarches au même moment? C'est-à-dire pendant qu'on assainit les problèmes internes, on va aussi vers les pays limitrophes pour que ceci, n'est-ce pas, nous aide à mettre fin à l'activisme des groupes armés qui endeuillent l'Est du pays.
Le plus important aujourd'hui pour la République démocratique du Congo, c'est de disposer d'une politique en matière de défense, donc de disposer d'une politique publique en matière de la sécurité. Et cette politique publique dépend des choix même de nos autorités. Donc, le volet externe, évidemment, de la politique de la République démocratique du Congo devrait relancer le débat de la politique étrangère de la RDC. Ça, je le souligne. James Rosenau, c'est un auteur, il dit ceci. La politique étrangère, ce sont les efforts que fournit un État pour contrôler son environnement extérieur, afin de minimiser les menaces et de maximiser les opportunités. Alors, les menaces pour la République démocratique du Congo, je le souligne tout à l'heure, provient entre autres de la faiblesse de son armée, une armée qui n'a pas
tous les moyens de sa politique, une jeunesse qui est en chômage, voyez-vous, tout ça, vous n'allez pas demander à l'Ouganda ou au Rwanda de le faire, voyez-vous. Donc, il appartient à la République démocratique du Congo de faire un choix judicieux qui ait un impact positif sur sa sécurité, mais sans oublier que toutes les conférences qui se tiennent dans la région se sont révélées comme un véritable marché de dupes, où les États prennent des engagements qu'ils sont incapables de mettre en œuvre.
Et à votre avis, au-delà de tout ça, quels pourraient être les mérites de ces sommets?
Alors, le mérite de ces sommets, c'est que ces sommets prônent la coopération. Les États de la région sont censés se parler. Ça, c'est quand même c'est quelque chose qu'il faudrait saluer, évidemment. Donc, les États de la région de Grand Lac doivent disposer de cadres où ils peuvent réfléchir sur un certain nombre de questions qui les hantent, et tout en étant pragmatique, c'est-à-dire tout en prenant des engagements qui soient à mesure de respecter. Mais ça ne sert à rien que les États puissent tous les jours parler du même problème auquel ils sont incapables de trouver solution.
Merci.
Sinon, ça risque de paraître un sommet de trop.
Merci, Maître Juvenal Mounoubo Moubi. Vous allez réagir à cette réflexion qui vient de Lubumbashi.
C'est Clément Kalamba depuis la ville de Lubumbashi. Les conclusions finales de ce mini-sommet des quatre chefs d'État sous l'initiative du président Tshisekedi sont louables dans la mesure où elles augurent un brin d'espoir à notre pays et tous nos compatriotes meurtris quotidiennement à l'est de notre pays. Mais étant donné que l'histoire nous montre que pareils sommets se sont déjà tenus sur la même problématique et n'ont donné des résultats escomptés, nous devons, nous Congolais, rester dubitatifs et surtout nous approprier le rétablissement de la paix dans notre pays. C'est ainsi que nous posons des questions de savoir, est-ce que réellement ce sont les citoyens de nos pays voisins qui sont responsables de l'insécurité à l'est de notre pays? Ne fallait-il pas commencer par conscientiser nos propres compatriotes impliqués dans cette insécurité? Merci.
Maître Juvenal Mounoubo Moubi.
Oui, je suis d'accord en partie avec Clément. Il y a une dimension interne. Comme l'a rappelé d'ailleurs le professeur Adenonga, il y a une dimension interne dans le conflit et il y a une dimension régionale. Par rapport à la dimension interne, lorsque M. Clément s'interroge s'il n'y a pas une part des Congolais dans ce qui se passe, évidemment, on en parlait toujours des tireurs de ficelles, non? C'est parmi les hommes politiques, et même ceux qui ne sont pas politiques, parce que tireurs de ficelles, il n'y a pas que des politiques. Raison pour laquelle il faut vraiment travailler sur le renseignement et l'amélioration des relations civilo-militaires. Ça devait vraiment être un axe de travail à ce niveau. Mais je pense, et là je m'adresserai un peu à mes co-débatteurs, aux collègues Irachan et à prof Adenonga. Il suffit pas seulement de dire qu'il y a échec du sommet. Il faut pas seulement se limiter au diagnostic. Et moi je crois qu'il faut aller au-delà des diagnostics. Il faut des solutions. Parce que le diagnostic a déjà été posé plusieurs fois, c'est presque tout le monde qui connaît les problèmes. Et maintenant, il faut arriver à proposer des pistes de solutions. Et moi, je pense qu'il faut des mesures urgentes. Et ça a découlé d'ailleurs de notre caravane de la paix. Nous avons pensé qu'il fallait vraiment des mesures urgentes, comme le changement de commandement, par exemple, à Bounia. Hein, comme le renforcement des moyens de vivres, des médicaments, des soldes militaires à Beni. Parce que nous avons été même sur la ligne de front là-bas à Beni, Mbaoukamango. Il faut le DDR pour ces jeunes gens-là, des Codeco, des FRPI qui sont regroupés depuis plusieurs mois. Et il faut aussi, là, au niveau de la dimension sous-régionale, évaluer l'accord cadre d'Addis Abeba, tous ces mécanismes-là. Est-ce que ça fonctionne? Les mécanismes conjoints de vérification, les centres de communs de fusion des renseignements, est-ce que ça fonctionne encore? Les certificats CIRGEL sur les minerais, est-ce que ça marche? Parce qu'on devrait installer, il était prévu un certificat dans la région, pour contrôler tout approvisionnement en minerais, tout flux ou tout commerce des minerais. Alors, il faut des mesures urgentes. Ça, c'est très important parce que parler de la gouvernance qu'il faut refonder, comme vous l'avez d'ailleurs dit, vous l'avez constaté que c'est un travail de longue haleine. Mais notre population a besoin de mesures urgentes, des solutions à très court terme parce que nos compatriotes continuent à mourir. Il faut garder l'optimisme. Ça c'est très important, l'unité nationale doit nous caractériser parce que sans l'unité nationale ça va être difficile. Hein, le pays est menacé de partout, il y a des incursions, des agressions d'un peu partout, mais ce qui peut nous aider c'est l'unité nationale derrière nos forces armées, Il faut vraiment une campagne de soutien à nos forces armées de la République.
Voilà. Ça, les quatre chefs d'État ont affirmé leur volonté de conjuguer les efforts pour, n'est-ce pas, mettre fin à l'activisme des groupes armés. Et dans votre première intervention, vous avez affirmé qu'il ne faudrait pas concevoir cette possibilité, n'est-ce pas, de mettre en place des forces conjointes pour combattre ces groupes armés. Et vous insistez sur ces centres communs de fusion des renseignements. Et vous pensez que conjuguer les efforts passerait seulement par le partage des renseignements?
Exact, parce qu'on doit respecter la souveraineté du pays. Les troupes étrangères ont déjà eu à faire leur entrée de manière officielle ou plus ou moins officielle dans ce pays, mais les résultats n'ont pas été concluants. Je me rappelle encore de l'opération au Mojawé tout dans le territoire de Walikale, qui en réalité ne s'est résumé qu'à une dispersion des FDLR avec des conséquences que les FDLR ont fait des dérapages et ont causé des tueries dans les Busurungi, groupement Busurungi, dont nous avons encore frais en mémoire tout cela. Et donc la solution, ce n'est plus de faire venir des troupes étrangères ici. On peut se limiter au partage des renseignements et ça sera suffisant. Et ces renseignements, il faut vraiment les mûrir, les approfondir. Et c'est à ce niveau-là.
Merci.
Il faut se partager les renseignements, il faut faire la coopération judiciaire. Ça veut dire que s'il y a un criminel qui s'est réfugié dans un pays voisin, il faut qu'on l'extrade. Par exemple, Djamil Moukoulou, le cerveau moteur des ADF, il faut qu'on sache, est-ce qu'il a déjà été jugé? Parce qu'à partir de ces messieurs, on aurait beaucoup d'informations sur ces groupes ADF.
Merci,
honorable. Qui est devenu une nébuleuse en réalité.
Merci, Gracien de Saint-Nicolas Irachan. Vous allez réagir à cette réflexion qui vient des Goma au Nord Kivu.
Moïse Angi, depuis la province du Nord Kivu à Goma, la tenue de ces mini-sommets était nous des soulagements pour toute la République démocratique du Congo. Toutefois, il reste à attendre les résultats si espérés des mesures prises par ces mini-sommets parce que nous faisons pour ce genre de discours. Nous pensons que les résultats sur terrain pourra bien évidemment nous émouvoir. Surtout, ça pourra nous permettre de mettre à l'échelle la bonne volonté de nos voisins ou l'hypocrisie de leur part.
Gracien Saint-Nicolas Irachan, tout le monde semble attendre, n'est-ce pas, que les choses se concrétisent.
C'est ça l'erreur même de nous Congolais. Nous sommes en train d'espérer des solutions qui peuvent provenir d'ailleurs et pourtant nous sommes des acteurs engagés dans ces processus-là où nous devions vraiment faire des actions concrètes. Je le répète encore, ce n'est pas la première fois que ces pays voisins sont en train de s'engager pour la paix. C'est pratiquement un même sommet où ils sont en train de montrer leur volonté. Mais alors, on ne doit pas se voiler la face. Les problèmes, c'est plus en interne. Ça, il faut que les dirigeants congolais sachent. Parce que souvent, les Congolais ont tendance à aller vers l'extérieur comme si le malheur du Congo, c'est l'étranger, c'est l'extérieur. Non. Nous avons eu des millions de morts et le monde entier garde silence. On est en train de suivre actuellement les rapports mapping. Pourquoi le monde garde silence face à des drames qui se sont déroulés en République démocratique du Congo? C'est là où nous avons toujours pointé la complicité du monde entier face à ce qui se passe. Parce que ce sont des crimes. Ce qui s'est passé à Ituri, j'ai vu ce qui s'est passé aussi au Nord Kivu. Quand on voit ce qui se passe aussi de Kivu, ce sont des crimes contre l'humanité. Et donc, pour moi, il faut qu'il y ait plus de plaidoyer au niveau international, mais aussi de diplomatie au niveau régional. Mais il ne faut pas oublier la responsabilité. Et je le dis encore, la RDC est mal placée pour organiser un tel sommet parce que nous sommes dans une position fragile dans la région. Nous sommes aujourd'hui un pays qui sert de base arrière pour la plupart des groupes armés, mais aussi nous sommes les moteurs dans l'alimentation, dans le financement de ces groupes armés, compte tenu de nos richesses. Donc ce sont des choses qu'il ne faut pas passer en revue. Donc pour moi, il faut vraiment qu'on voit ce qui s'est passé et qu'on affronte. Si les collègues Mounoubo disent qu'aujourd'hui on ne peut pas amener des armées étrangères, ok, alors organisons notre armée. On sait que l'armée congolaise est 8e puissance en Afrique, c'est bien. Alors organisons cette armée-là, il faut qu'on multiplie les contrôles pour qu'il n'y ait pas de détournement au niveau de l'armée, pour qu'il n'y ait pas certains officiers qui sont en train de s'enrichir au détriment des autres troupes qui souffrent au front, et qu'on voit aussi comment renforcer la justice militaire. Mais ce n'est pas seulement la justice militaire, mais c'est aussi les civils qui sont effrayants pour détourner les fonds ensemble avec les militaires. Donc il y a beaucoup de choses qu'on devrait arranger au niveau interne même.
Oui, vous dites que nous sommes mal placés pour organiser ces sommets, mais aussi nous sommes la principale victime, n'est-ce pas, de l'activisme de ces groupes armés. Et donc, nous sommes obligés, nous sommes condamnés, n'est-ce pas, à prendre des initiatives pour voir comment on peut mettre fin à l'activisme de ces groupes armés.
C'est une bonne chose, c'est là où j'ai félicité le président. Mais quelque part, quand on n'est pas fort, quand on ne pèse pas, même si vous parlez, le monde ne vous écoute pas. Vous savez pourquoi aujourd'hui, le président ougandais peut résister, il ne vient pas, le président burundais, il ne vient pas? C'est parce que la RDC a perdu son poids. Et ça, on doit le dire, nous avons perdu notre poids. Si nous avions une force de dissuasion, mais tous ces pays allaient venir. On sait comment à l'époque les Zaïre pesaient. Donc moi je souhaite assez que les Congolais s'organisent d'abord en interne. Qu'on laisse avec nos petites blagues, nos jets au niveau de l'Assemblée nationale, nos petits jets de positionnement politique. Travaillons sur l'essentiel. Travaillons sur le renforcement des RDC. Travaillons sur le renforcement de la police, le renforcement de l'administration. C'est à ces moments-là que nous allons être forts.
Et pour Sir Agedonga, vous allez aussi réagir à cette réflexion qui vient de Likasi.
Dans le Haut-Katanga. Ce mini-sommet est encouragé dans la mesure où les objectifs poursuivis sont nobles. C'est-à-dire les chefs d'État veulent la paix dans la région des Grands Lacs, particulièrement en RDC. Mais il y a anguille sous roche. Premièrement, ce mini-sommet a été boycotté par les chefs d'État voisins, ce qui montrait au départ que les voisins de la RDC, notamment le Rwanda et l'Ouganda, n'ont jamais eu un seul jour la volonté de voir la RDC vivre en paix et dans la tranquillité. Ce qui montre également que ce mini-sommet n'est qu'une façade de mauvais goût. Différents rapports des ONG montrent noir sur blanc combien de fois les voisins de l'Est sont impliqués dans le soutien des groupes armés qui sèment la terreur dans la partie Est de notre pays. Vont-ils vraiment avoir la bonne conscience d'œuvrer pour le bien de tous les Congolais? Qui profitent de cette guerre pour exploiter illicitement les ressources naturelles de la RDC si ce ne sont pas les pays voisins? Leur demander aujourd'hui d'œuvrer ensemble pour mettre fin au terrorisme dans la région, c'est trop rêvé. Certes, c'est de la diplomatie, mais le président de la République ne devrait pas avoir l'air à supplier les autres chefs d'État. Le peuple congolais l'a élu uniquement pour protéger les Congolais. Qu'il s'impose par la force sur ces groupes rebelles et on ne parlera plus de mini-sommet qui ne rime à rien.
Professeur Agedonga, votre réaction?
J'étais en train de dire tantôt que nous sommes dans un marché de dupes où, évidemment, les gens qui prétendent contribuer à l'éradication des groupes armés sont les mêmes qui les entretiennent. Nous avons tous lu le rapport qui a été publié sur notamment le NDC rénové qui serait un groupe qui est entretenu par l'Ouganda, qui pille les ressources de la République démocratique du Congo en faveur de l'Ouganda. Et il y a bien d'autres groupes armés qui sévissent en République démocratique du Congo, qui sont entretenus par ces mêmes États. Donc la République démocratique du Congo doit repenser tout simplement son approche, doit repenser sa politique étrangère.
Professeur Agedonga,
quelque part que...
Parce que vous pensez que nous sommes dans un marché des dupes, et donc vous ne pensez pas que les résolutions qui ont été prises à l'issue de ces sommets, de ces mini-sommets, pourraient être un jour mises en application?
Moi, je vous disais tantôt que ces résolutions contrastent étrangement avec le dynamisme même de l'insécurité en République démocratique du Congo. Pourquoi? Parce que on voit seulement l'activisme de ces groupes armés sous la dimension militaire. Je le disais tantôt, on ne peut pas apporter de solution à une menace sécuritaire uniquement sous l'angle militaire. Je le disais que nous avons, entre autres, une jeunesse qui est en chômage, qui constitue une main-d'œuvre pour le mouvement subversif. Aujourd'hui, on peut éradiquer un groupe armé, ce groupe ne cesse de disparaître, mais aussi longtemps qu'on n'a pas apporté des solutions efficaces à la problématique du chômage de masse, eh bien, on risque évidemment de tourner en rond, de connaître un véritable commencement d'une histoire sans fin, ça je dois le souligner. Mais en outre, je reviens sur le fait que les États même de la région ne sont pas animés de bonne foi. Vous savez aujourd'hui que la première raffinerie d'or en Afrique subsaharienne se trouve en Entebbe, en Ouganda. Et cette raffinerie a été construite évidemment pour une ressource dont l'Ouganda ne dispose pas. Et le rapport des experts montre clairement que l'or qui est pillé, la République démocratique du Congo, qui va alimenter cette raffinerie. Il y a quelques années, le Rwanda signait le contrat avec une entreprise canadienne, AB Mineral, qui devrait implanter son industrie destinée à la raffinerie du coltan venant de la République démocratique du Congo. Donc, la République démocratique du Congo doit cesser d'être idéaliste. La République démocratique du Congo doit être réaliste. Oui, mettre sur pied une approche qui lui permette de résoudre efficacement ses problèmes sécuritaires.
Merci, Maître Juvenal Mounoubomoubi. Est-ce que vous êtes aussi pessimiste que le prof Aguenonga et Gratien Irachan? Est-ce que vous pensez que les résolutions de ces mini-sommets ne seront jamais mises en application?
Oui, mais avec le pessimisme, je n'apporterai rien comme contribution à l'édifice, l'édifice de la paix. Donc je reste optimiste, mais je me dis c'est un bon essai, ces mini-sommets, mais il faut vraiment qu'on arrive à des actions concrètes. C'est ce que j'ai dit auparavant. Alors, je suis d'accord qu'il faut renforcer, et ça je l'ai dit d'ailleurs plus d'une fois, renforcer les FRDC. Et le budget 2021, l'examen du budget tout à l'heure à l'Assemblée au cours de cette session, c'est une opportunité parce qu'il faut plus de moyens à nos forces armées. Les défis sont énormes. Nous venons des lignes de front, nous avons été à Beni, à Bounia. Et les FRDC sont confrontés à des défis, à des sérieux défis. Donc, il faut des moyens et une bonne utilisation de ces moyens, évidemment. Alors, nous pensons, là je suis d'accord avec Prof Adenonga, la solution, elle doit être, il faut une approche holistique. Il faut une approche qui intègre beaucoup de choses. Il faut des routes aussi, parce que quelqu'un me le disait en swahili, pas plus tard qu'hier, que Barabara Njo Maendeleo, c'est-à-dire la route, c'est le développement. Je peux même ajouter que Barabara Njo Amani, la route, c'est la paix. Quand il n'y a pas la route, c'est même difficile de déployer les militaires, de déployer les policiers. Donc, faut intégrer tout ça, l'encadrement de la jeunesse. Ça commence d'abord par ceux qui se sont rendus là, à Bounia. Hein, ceux qui sont regroupés non loin de la ville de Bounia, ceux qui sont regroupés un peu partout, parce que les DDR, ce n'est pas les regroupements. Les DDR, c'est permettre aux ex-combattants, aux miliciens, d'assurer le retour à la vie civile. C'est ce qui est important. On est tous d'accord qu'il faut pas octroyer des grades, hein, l'époque est révolue. Mais au moins, il faut encadrer ces ex-miliciens pour qu'ils ne soient plus tentés de prendre les armes.
Merci.
Le rapport mapping, oui, il faut l'appliquer finalement. Je crois qu'il faut une juridiction mixte un peu. Il faut des chambres mixtes ou alors un tribunal pénal spécial sur le Congo pour, parce qu'on ne doit pas rester impuni, évidemment. Ça fait
merci,
partie de l'actualité.
Merci, Juvenal. Merci, Gratien de Saint-Nicolas Irachan. Après l'organisation de ces mini-sommets, est-ce qu'on peut espérer voir les lignes bouger sur le terrain?
Bon, il ne faut pas que nous puissions tirer conclusion sur le vide, parce que moi je n'ai pas vu un plan d'engagement pour la restauration de la paix. Donc il faut qu'on ait un plan et on voit quelle est la part de tous ces pays engagés dans les conflits au Congo. Donc s'il n'y a pas un plan d'engagement, moi je ne pense même pas espérer que ça va être un discours qui repose sur le vide. Mais alors je dirais aux Congolais qu'on cesse de regarder les malheurs du Congo comme si ça vient seulement des autres et qu'on ne voit pas sa responsabilité. C'est très important. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on déplore le fait que l'Ouganda est devenu parmi les grands producteurs de l'or, le Rwanda parmi les grands producteurs de coltan. Donc, il faut qu'on arrête de regarder les autres, mais qu'on prenne d'abord la responsabilité au niveau interne. Et ça, ça fera en sorte que nous allons changer notre façon de voir les choses, nous allons changer l'approche. Bien, il faut renforcer l'armée, ça c'est tout à fait certain. Mais attention, parce qu'on ne peut pas donner de l'argent quand on ne sait pas contrôler. Donc il faut voir, est-ce que les moyens qui sont disponibles aujourd'hui à l'armée et à la police, est-ce que ça sert effectivement pour cette police-là ou pour cette armée-là? Parce que je sais qu'il y a beaucoup de choses. Avec les secrets défense, on ne sait pas beaucoup s'intéresser pour contrôler, mais il y a tellement d'abus qu'il faut en sorte que même le peu de moyens qu'on reçoit, ça n'aide pas l'armée. Donc pour moi, en résumé, il faut renforcer la gouvernance sécuritaire, il faut renforcer la police et l'armée, la situation et la justice.
Prof. Aguenonga, votre conclusion en un mot?
Je souligne le fait que la solution aux dynamiques sécuritaires en République démocratique du Congo impose le fait que la RDC puisse disposer d'une approche globale. C'est très important. Et parmi ces approches, les groupes armés qui sévissent en République démocratique du Congo ont trouvé du terrain fertile dans la mesure où il y a l'absence de l'autorité de l'État. Il faudrait parvenir à renforcer l'autorité de l'État. À cela, il faudrait ajouter évidemment la solution au problème du chômage de masse. Donc, tous les jeunes qui constituent aujourd'hui une main d'œuvre à ces groupes ne bénéficient pas d'un encadrement efficace de la part de la République démocratique du Congo, mais sans oublier aussi la politique étrangère de la République démocratique du Congo qui doit être repensée aujourd'hui.
Merci,
donc la République démocratique du Congo doit s'assumer.
Merci.
C'est fondamentalement important.
Merci, merci, c'est la fin de cette émission. Merci à Polydor Basunga qui est à la technique, à Kelly Nkoute qui a réalisé cette émission sous la supervision d'Axel Goncho, à la présentation Guy Maté. Merci et bonne suite au programme sur Radio Capi.